6h45 à la seconde près. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux et aujourd'hui on vous suit avec votre invité le long du gazoduc Nord Stream 2 qui doit entrer en service dans les semaines qui viennent.
Oui, Nord Stream 2, ce nouveau tube qui doit distribuer le gaz russe à l'Europe. Le Danemark a levé la semaine dernière le dernier obstacle qui subsistait à l'achèvement d'un chantier très largement entamé puisque le gazoduc est construit à 80%. Il avance à la vitesse de 3 km par jour ce chantier. Nord Stream 2 est donc sur le point de relier directement la Russie à l'Allemagne. Il part de Bovanenkovo sur la péninsule russe de Yamal, recouverte par la neige quasiment toute l'année. On est à 400 km au nord du cercle arctique, donc pour déboucher directement en Allemagne, avec donc les problèmes et les questions de dépendance européenne au gaz russe que cela pose. Bonjour Angélique Pall.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur en énergie et matières premières à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Le Danemark a donc donné son accord. Pourquoi est-ce qu'il avait hésité ?
Alors le Danemark était le dernier des pays sur la liste à avoir encore une capacité, disons, d'empêchement de réalisation du gazoduc. Il y a eu un certain nombre de pressions qui ont été faites sur ce pays, notamment de la part des voisins baltiques qui s'inquiétaient de la... du passage du gazoduc, et puis de la part des États-Unis également.
Parce que les États baltes, ils sont complètement snobés par ce gazoduc.
Absolument.
Qui ne passe plus par eux. Or, ils touchaient une rente gazière, jusqu'à présent, quand le gaz passait par eux.
Absolument. Il y a des questions de revenus, disons, de transit du passage des gazoducs dans les pays touchés. Donc là, en l'occurrence, le gazoduc, laisse de côté l'ensemble des autres États de la mer Baltique pour se connecter directement à l'Allemagne. Ces réticences, elles sont aussi liées à des questions militaires, puisque le gazoduc traverse un certain nombre de zones militaires, d'exercices militaires dans la Baltique. Il passe pas très loin de la base suédoise de Karlskrona. Se poser aussi la question pour le Danemark d'une zone encore disputée de 40 km avec le voisin polonais. Et donc pour toutes ces raisons... Le Danemark a fait passer une loi en 2018 qui permettait au ministère des Affaires étrangères de donner un avis sur ce gazoduc qui normalement aurait dû être soumis simplement à, une évaluation environnementale.
Alors c'est un gazoduc Nord Stream 2 qui aura bientôt la capacité de fournir 11% de la consommation annuelle européenne. Qu'est-ce que va représenter le gaz russe en tout dans la consommation européenne totale bientôt ?
Alors, on n'est pas sûr que ça va nécessairement impliquer une augmentation de la part du gaz russe. Ce qui va vraisemblablement se passer, c'est un contournement de l'Ukraine. C'est-à-dire que le gaz qui transite traditionnellement à au moins un tiers par l'Ukraine pour l'approvisionnement européen, là va vraisemblablement contourner en fait ce passage ukrainien en passant en grande partie par le Nord Stream et puis par le passage turc à travers la réalisation du Turk Stream qui est en phase de finalisation.
On va en parler, mais alors les problèmes que ça pose surtout pour l'Ukraine qui jusqu'à présent touchait je crois 3 milliards de dollars par an de rente gazière dont les finances risquent d'être un peu asséchées par ce projet Nord Stream, c'est elle qui principalement a contesté ce projet. Peut-être un peu moins aujourd'hui, le nouveau président ukrainien semble plus ouvert à la discussion avec Moscou. Est-ce qu'il s'est déjà prononcé sur ce gazoduc ?
Alors les négociations sont en cours. À la date du 30 octobre, on n'avait pas encore atteint d'accord sur les questions gazières. Ça pose plusieurs questions, c'est-à-dire que les contrats gaziers avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, s'arrêtent au 31 décembre 2019. Et donc il faut renouveler un contrat pour a priori 10 ans. Ça pose deux questions. La question des relations entre l'Ukraine et la Russie, et puis la question du spectre, en fait, de la pénurie européenne. Le spectre de la pénurie européenne, a priori, pour cet hiver, il est évitable au sens où, même s'il n'y a pas d'accord entre la Russie et l'Ukraine, les réserves européennes sont pleines. Donc, on pense qu'a priori, pour l'hiver prochain, normalement, même si la Russie et l'Ukraine ne s'accordent pas, il n'y aura pas de pénurie gazière en Europe.
C'est vrai qu'on ne cesse de dire que ce projet va rendre plus dépendants qu'ils ne le sont déjà les pays européens au gaz russe et renforcer l'influence de Moscou. C'est une question également politique, même si les défenseurs du projet, eux, disent que tout simplement et tout bêtement, ils vont gagner 2000 km de route. Eux avancent des arguments techniques et économiques. L'argument politique, c'est vrai que c'est toujours surprenant de voir à quel point on lie encore le monde par ces tubes, en l'occurrence les gazoducs, mais c'est vrai aussi du pétrole. Dans quelle mesure aujourd'hui le Kremlin, Moscou, se sert réellement de l'énergie dans sa politique étrangère ? Est-ce que c'est une question à chaque fois qu'il y a des négociations de diplomatie ?
Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que sur un plan commercial, très clairement, Moscou utilise son influence en fait pour négocier certains prix du gaz. Typiquement, par exemple, lorsque vous êtes un État balte, vous avez un pouvoir de négociation beaucoup plus faible que lorsque vous êtes l'Allemagne. Donc, par exemple, la Lituanie a fait construire un terminal de gaz naturel liquéfié en important du gaz, notamment des États-Unis, pour pouvoir faire pression sur les prix russes et faire baisser en fait sa note de gaz. Inversement, lorsque vous êtes l'Allemagne, même si logiquement vous êtes plus loin sur le gazoduc et donc vous devriez payer plus de frais de transport, vous avez un pouvoir de négociation qui est plus fort et donc une capacité de négociation avec la Russie qui est plus grande. Si on prend à l'échelle géopolitique globale, la dépendance, elle est quand même mutuelle. C'est-à-dire que le PIB russe est dépendant en grande partie de ses exportations de gaz vers l'Union européenne. La Russie s'inquiète un peu de la volonté de transition énergétique européenne et des volontés d'approvisionnement à l'extérieur, notamment américaine. Et donc, elle a aussi développé des partenariats, par exemple, avec la Chine, pour essayer de contrebalancer, en fait, la perte potentielle de son principal et seul client dont elle est aussi captive.
Et Gazprom, l'entreprise Gazprom, est-ce qu'elle est en si bonne santé qu'elle pourrait continuer à dominer sans contrepartie et sans scrupule le marché du gaz? Est-ce qu'elle peut impunément fixer toutes les conditions?
Je dirais que non, parce qu'elle commence à être concurrencée aussi en interne. C'est-à-dire que, justement, sur ces questions de gaz naturel liquéfié, donc Gazprom a un monopole sur tout ce qui est gazoduc, mais il y a d'autres entreprises en Russie qui sont en train de se développer et qui font des partenariats, notamment dans la péninsule de Yamal, justement, pour développer du gaz naturel liquéfié. Et donc là, sur ce plan-là, Gazprom est en train de perdre son monopole aussi à l'intérieur de la Russie.
Donc le gaz reste un marché, en tout cas au sein de l'Union européenne, mais aussi de plus en plus en Russie. Donc est-ce que les perspectives de voir le gaz comme un outil de géopolitique sont en train de s'amenuire?
Ça, c'est une très bonne question. Si on regarde l'ensemble des infrastructures, je dirais que non. Parce que, par exemple, quand on regarde les relations entre Russie et Turquie, il y a un certain nombre de composantes géopolitiques autour de la construction des gazoducs. Donc on ne peut pas complètement résumer, disons, la question gazière à des questions commerciales.
C'est vrai que c'est d'actualité de parler de la Turquie. Pendant qu'on parle de Nord Stream 2, on parle moins ou plus du tout même de Turk Stream, ce projet de gazoduc qui va de la Russie à la Turquie à travers la mer Noire avec une branche à destination d'Ankara qui, je crois, est déjà en service, dites-moi si je me trompe, et une autre à destination des Balkans et de l'Europe centrale. Là encore, si on lit cette coopération énergétique d'un point de vue géopolitique, on peut la trouver périlleuse. La relation russo-turque, elle est pleine de soubresauts. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont entendus tout récemment pour sécuriser, comme ils disent, le nord syrien, mais c'est une entente très relative. Donc voilà, est-ce qu'il faudrait parler davantage de Turk Stream que de Nord Stream 2 ?
Disons que dans la relation russo-turque, la question énergétique, elle est complètement structurelle. Parce que la Turquie a une croissance de sa demande, notamment en électricité, et le gaz et l'électricité sont très intimement liés, qui est quasi exponentielle, avec des taux qui sont avoisinés, disons, par la Chine, mais la demande turque est très forte depuis ces dernières années. Elle s'approvisionne principalement en gaz côté iranien et russe, et elle a également des partenariats avec la Russie sur le plan nucléaire, puisque la Russie est en train de construire une centrale nucléaire à Akuyu depuis 2015, qui est censée approvisionner la Turquie pour au moins les 10 à 20 prochaines années. Donc il y a une coopération structurelle sur le plan énergétique entre la Russie et la Turquie qui est très forte et qui éclaire sous un jour différent les soubresauts de la relation entre ces deux États, notamment lorsque la Russie et la Turquie s'étaient retrouvés en froid après le
en 2015, en quand 2015, un avion russe a été abattu par,
avait été abattu, par l'armée turque.
Alors, Nord Stream 2, vous avez cité l'Allemagne tout à l'heure, Angélique Pal, en disant que l'Allemagne pesait beaucoup plus que les pays baltes pour négocier avec la Russie concernant le gaz. Or, pour ce projet Nord Stream 2, c'est elle qui sera l'interlocutrice privilégiée. C'est chez elle que débouche ce gazoduc et l'Union européenne l'a de toute façon désignée comme interlocutrice. Est-ce que ça peut changer l'équilibre des rapports entre Russie et Union européenne ?
Potentiellement oui, au sens où l'Allemagne a une force de négociation qui est beaucoup plus importante que d'autres États. Là, avec ce gazoduc, la mise en service de Nord Stream 2, elle aura à peu près 30% du gaz importé par l'Union européenne qui transitera par son territoire. Donc ça lui donne une force de négociation, ça lui donne aussi une force de redistribution, ce qui est notamment au cœur des contestations d'un certain nombre d'États, par exemple la Pologne, qui, elle, mise sur le gaz naturel liquéfié en provenance notamment du Qatar ou des États-Unis, et qui se serait bien vu comme le pôle de redistribution, en tout cas en Europe de l'Est, du gaz.
Alors Angélique Pal, pour conclure, on ne peut pas. On parle d'un côté de géopolitique, des tubes, du gaz, du pétrole, et de l'autre côté, il y a la transition énergétique dont on ne cesse également de parler, mais comme si c'était deux sujets qui ne se reliaient jamais. On n'arrête pas de parler là de la mise en service de nouveaux gazoducs, de l'export. Les États-Unis veulent exporter leur gaz, notamment gaz de schiste. Bon, et la transition énergétique, alors est-ce qu'elle ne peut se passer de gaz pour l'instant ?
Pour l'instant, non. Au sens où donc l'Union européenne cherche à atteindre des objectifs de 20% de son mix énergétique en 2020 qui serait constitué d'énergie renouvelable. Donc c'est que 20%. Et donc il faut quand même que le reste du mix soit composé de quelque chose. Le gaz est une énergie considérée comme plus propre que le pétrole et le charbon. Et elle est aussi très utile parce que dans le mix électrique, disons qu'elle est facilement mise en œuvre. On peut démarrer une centrale au gaz beaucoup plus facilement qu'une centrale nucléaire, par exemple. Et donc, pour compenser la variabilité des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, on utilise aujourd'hui beaucoup le gaz pour permettre de compenser en fait les variations des énergies renouvelables qu'on ne sait pas encore techniquement très bien gérer sur les réseaux électriques.
Et donc, en attendant, on continue à lire le monde par ses tubes. Et notamment, on a vu ce matin que le pétrolier saoudien Aramco, là on parle plus de gaz mais de pétrole, va faire la plus grosse entrée de l'histoire de la bourse à 1 milliard 700 millions d'euros. On se dit que la transition, ce n'est pas encore exactement pour demain. Merci beaucoup Angélique Pal d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Merci.